Prise de terre, Adrien Zerbini.
On parle pollinisateurs, et en particulier des abeilles, suite à la sortie d'un rapport du PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, sur le déclin de ces insectes, un déclin dont on sait qu'il ne s'expliquera pas simplement, pas de cause unique. C'est donc ce qu'on appelle du multifactoriel, Bastien Confino.
En effet, en croire le rapport qui réunit les travaux de chercheurs du monde entier sur le sujet, il y aurait plus d'une douzaine de facteurs qui seraient responsables de ces disparitions. Ce qui complique beaucoup les choses, à la fois pour identifier les problèmes et puis aussi pour les résoudre. Mais pour mieux comprendre pourquoi on s'intéresse tant à ces abeilles, j'ai demandé à Pascal Peduzzi, responsable de l'unité changement global et vulnérabilité au programme des Nations Unies pour l'environnement, comment fonctionne la pollinisation des plantes.
Simplement, sur chaque fleur, vous avez des pistils et vous avez des étamines, donc c'est les organes femelles et mâles de la fleur. Et pour avoir une fertilisation, il faut que le pollen, donc la semence mâle, soit transmise d'une fleur vers une autre fleur pour aller toucher la partie femelle et ainsi féconder la fleur et faire des graines. Donc c'est ce que font les abeilles et elles ont en retour une récompense par la fleur qui va les rémunérer pour ce service et c'est avec ça qu'elles vont prendre le pollen et faire leur miel.
Le vent peut le faire aussi ?
Le vent, il peut le faire, mais il va le faire de manière unidirectionnelle, il va le faire de manière non systématique et chaotique, et surtout, il va amener des pollens d'une fleur vers une autre fleur, alors que l'abeille, elle ne mélange pas tellement les pollens, elle va d'abord polliniser toutes les fleurs de la même race, et donc elle va amener les bons pollens au bon endroit.
Pascal Peduzzi, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un déclin des pollinisateurs dans le monde. Est-ce qu'on arrive à chiffrer ce déclin ?
Absolument, de l'ordre de 30% aux États-Unis. Et puis en Europe, ça varie. Dans le sud de l'Europe, un petit peu moins que dans le nord de l'Europe. Alors, par exemple, en France, on est aussi de l'ordre des 30%. Et en Suisse, aux alentours des 18%. Au Royaume-Uni, entre 27 et 33%. Et le sud de l'Europe, bizarrement, est moins sujet au déclin. Donc en Espagne, en Italie, en Grèce, on a plutôt entre 12-15% de déclin.
On explique ces différences ?
Il y a plusieurs sources en fait, mais probablement du fait de l'industrialisation de l'agriculture qui est plus en route dans les pays du nord de l'Europe que dans les pays du sud de l'Europe. Donc l'abeille, elle a besoin quand même de pollen tout le long de la saison. Et quand vous faites des grandes cultures et vous n'avez que deux types de cultures sur un champ, eh bien évidemment vous appauvrissez ce régime de la nourriture de l'abeille.
Vous parlez de l'abeille, on s'intéresse qu'à l'abeille ?
Alors, c'est pas le seul pollinisateur. Tous les pollinisateurs sont en déclin aujourd'hui. Maintenant, sur les abeilles, on a beaucoup plus de chiffres parce que les abeilles, eh ben, elles sont aux mains des apiculteurs qui peuvent voir directement leur santé. Pour s'inquiéter de la santé des pollinisateurs autres, naturels, le bourdon, etc., il faut faire beaucoup plus de recherches. Et là, on n'a pas de centre. Enfin, il y a des centres qui font des recherches, mais partout, c'est pas aussi facile que pour les apiculteurs. Et l'autre chose, c'est que les abeilles, elles font un travail énorme. C'est celles qui travaillent le plus. Les papillons, bien sûr, ils pollinisent, mais pas autant que les abeilles.
Ce déclin, on l'observe en Suisse, en Europe, mais est-ce qu'on l'observe partout dans le monde ? Ou est-ce qu'il y a quand même des zones qui sont épargnées ?
On observe un déclin des pollinisateurs à peu près partout dans le monde parce que l'intégralité du monde subit une dégradation des habitats. Maintenant, on voit dans les pays industrialisés un déclin beaucoup plus rapide, probablement du fait d'une agriculture plus de type de monoculture, plus industrielle, probablement également par l'utilisation intensive de produits chimiques, pesticides et autres, insecticides. Et on voit qu'on a actuellement une très très grande charge sur les abeilles de la part de ce parasite qui s'appelle le varroa destructor et qui est importé d'Asie et qui passe avec la mondialisation de l'économie, le transport des marchandises. On a une dissémination de ce parasite qui maintenant atteint l'Europe, les États-Unis, qui n'a pas encore atteint l'Australie, qui serait le dernier bastion, disons, dans le monde industrialisé qui n'a pas été touché par ça. On le retrouve en Afrique et en Amérique latine, mais là les abeilles sont des espèces différentes qui ont l'air de s'accommoder un peu mieux de ce parasite, alors que nos abeilles asiatiques et européennes, qui sont les mêmes qui ont été importées aux États-Unis et au Canada, celles-ci, elles sont très susceptibles et vulnérables par rapport à ce parasite. Quand en 2005, on a commencé à voir une perte des pollinisateurs en Europe, on s'est intéressé au sujet, il s'est avéré que c'était surtout des produits chimiques. Une année plus tard, en 2006, il y a eu cette mort des abeilles, 30% des pollinisateurs de perte d'une année à l'autre aux États-Unis, avec ces morts mystérieuses, totalement mystérieuses, dans le sens que les ruches étaient retrouvées intactes, mais sans aucune abeille. On a dû attendre, finalement, fin 2009, pour avoir le rapport de tous ces experts. Ce qu'il en ressort, c'est que finalement, ils n'ont pas encore identifié, en tout cas une source, non, certainement pas une source unique, mais toutes sortes de pressions sur l'abeille et sur les pollinisateurs qui sont dans l'ordre d'importance. Tout d'abord, ce varroa destructeur qui a vraiment eu des conséquences phénoménales sur les abeilles. Ensuite, les pesticides et ensuite toutes sortes d'autres facteurs qui vont de la destruction de l'habitat, du perturbation de la pollution dans l'air, donc les abeilles qui n'arriveraient plus à sentir suffisamment loin également leurs sources de nourriture. Donc toutes sortes de différences dans l'environnement qui ont chamboulé ce service des abeilles. Alors maintenant, ce qu'il faut vraiment comprendre, pourquoi on dépend autant des abeilles, c'est pas tellement parce qu'elles produisent du miel, ce qui en soi est une excellente chose, mais c'est surtout parce qu'elles font un service de pollinisation pour toute notre agriculture. Et si on reprend les plantes qui font le 90% de notre production de nourriture, eh bien, il y en a à peu près une centaine de ces plantes. Et 71 de ces plantes sont dépendantes des abeilles. C'est-à-dire que le service que nous rendent ces abeilles gratuitement, parce qu'elles ne sont pas payées pour faire la pollinisation, eh bien, elles nous rendent service pour une production équivalente à 200 milliards de dollars par année. Et nous, en échange de ce service royal et gratuit de la nature, qu'est-ce qu'on fait? On détruit leur habitat, on spraye des agents chimiques qui leur sont néfastes. Donc là, je pense qu'il serait assez nécessaire de revoir cette stratégie d'agriculture, puisqu'on voit bien qu'on nous sommes totalement dépendants de ce service de pollinisation. On ne va pas le faire à la main, aller passer sur chaque fleur, vous imaginez les coûts. Donc ce service qui est gratuit, la moindre des choses qu'on pourrait faire pour le rétribuer, c'est d'être un petit peu plus conscient du bien-être de ces abeilles et d'éviter de leur faire toutes sortes de nuisances.
C'est ça, c'est-à-dire que si aujourd'hui on ne fait rien et on continue à observer cette disparition d'abeilles, qu'est-ce qui se passe dans 10 ans, 20 ans, 30 ans ?
Alors, je n'ai pas de boule de cristal, peut-être qu'on va très bien s'en sortir, il ne faut pas non plus dramatiser la situation ou peindre tout en noir. On observe actuellement certains déclins, je pense qu'il est justifié de s'en inquiéter et de chercher des causes. Ça ne veut pas nécessairement dire que l'abeille va disparaître. Seulement, c'est également une possibilité. Si tout à coup, on commençait à avoir des nuisances telles que les morts soudaines d'abeilles se démultiplient de manière extrêmement rapide, on aurait vraiment une très très grosse crise. Et cette crise-là, il faudrait, pour y pallier, importer des nouvelles abeilles, des nouvelles reines, donc encore appauvrir le stock génétique, parce que c'est également ça le problème. À force de croiser des abeilles pour avoir des abeilles les moins agressives possibles, les plus productives possibles, on a un petit peu affaibli notre bagage génétique, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes élevages qui produisent les reines. Si tout à coup on avait une énorme crise avec un déclin massif de pollinateurs en Europe, on devrait faire venir des reines d'Australie, des États-Unis, etc., et finalement avoir très très peu de biodiversité ou de variété génétique, et ce qui les affaiblirait encore plus pour ce qui est de la résistance à des parasites ou à tout autre choc.
Pascal Peduzzi, en tant que responsable à l'ONU, est-ce que vous auriez envie de donner genre, 3 conseils par rapport à cette disparition des abeilles ?
D'abord, effectivement, c'est pas le seul fait des agriculteurs. Ils font ce qu'ils peuvent pour avoir une agriculture compétitive. Alors, évidemment, une chose qui serait bien, ce serait d'avoir davantage de conseils et de connaissances sur les produits chimiques et leurs impacts. Je crois que ça, c'est une chose qu'au niveau fédéral, il devrait y avoir une cellule qui puisse conseiller à ce niveau-là. Il y a un centre de recherche, je pense qu'il devrait bénéficier davantage de moyens. La deuxième chose, je crois que c'est tout en chacun. Tous ceux qui ont des jardins et qui sont des jardiniers du samedi et du dimanche, et je ne le dis pas de manière péjorative, certaines de ces personnes ne se rendent pas nécessairement compte qu'ils utilisent des produits extrêmement toxiques, qu'on peut trouver d'ailleurs en grande surface, et c'est bien le problème. C'est qu'on va dans un magasin de bricoles loisirs, on trouve des produits qui sont extrêmement toxiques et qui sont utilisés par des personnes qui n'ont pas forcément la connaissance de l'action de cette chimie, ni du dosage, ni de si c'est absolument nécessaire ou s'il n'y a pas d'autre chose à utiliser. Donc ils vont sprayer ça sur leurs arbres, de manière préventive ou de manière curative, ils vont sprayer ça sur leur gazon, etc. Et je crois que là, il y a une information qui doit être faite et probablement également une revue de ce qui est disponible de tout en chacun dans les grandes surfaces, parce qu'on trouve vraiment des produits extrêmement toxiques. Donc ça, je crois que c'est une deuxième chose. Et sinon, je pense que ceux qui ont un peu de terrain, c'est pas la peine d'avoir un beau gazon tout vert qui a absolument zéro biodiversité. Ce serait beaucoup mieux de laisser un gazon un peu plus naturel, qui a quelques pâquerettes, quelques fleurs. Et je crois que les pollinisateurs seraient très reconnaissants d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent, parce qu'en gazon, c'est peut-être joli tout vert, mais autant avoir une moquette au niveau de la biodiversité. Donc si vous avez en coin de jardin ben, laisser une petite prairie de fauche, laisser quelques fleurs, ça sera d'abord très décoratif. Et puis surtout, vous verrez réapparaître des papillons et d'autres pollinisateurs. Et c'est une énorme surface. Ça ne sert à rien de faire nécessairement que des aires protégées, ponctuelles, au coin d'une vallée, quelque part en Suisse, alors qu'on a des surfaces de jardins qui sont absolument incroyables. Et comme nous le disait l'apiculteur, eh ben, on fait même plus de miel dans les régions de villa que ce qu'on arrive à faire en pleine campagne. Donc je pense qu'il y a effectivement un effort à faire et que c'est à la portée de n'importe qui de faire un effort pour préserver la biodiversité.